J'avais emmené Alex voir un film des Marx Brothers dès que je l'avais pensé capable de lire des sous-titres au cinéma. Il devait avoir 7 ou 8 ans, c'était les Marx au grand magasin, et il avait été tellement emballé de voir trois types faire sur un écran tout ce qu'il aurait aimé faire lui-même dans la vie, qu'il avait fait de Harpo son maître à penser. Mais je n'en ai eu conscience que petit à petit. Le soir, à table, il avait dit, son anniversaire étant proche, qu'il aimerait comme cadeau, en plus des patins à roulettes, un imperméable comme emporté Harpo, avec des poches très profondes. Et il avait ajouté « Plus tard, quand je serai grand, je voudrais être acteur muet. » C'est de Boubé qu'est venu le premier commentaire. « Acteur muet, c'est nouveau ça. T'as rien trouvé d'autre. Juste acteur muet. Si tu commençais par être muet dans la vie, tu crois pas que ça serait plus intelligent? Tu crois qu'on peut être muet comme ça? Juste en allant au cinéma ?» La réaction de Boubé avait au moins deux explications. Comme elle avait près de 50 ans, lorsque juste avant la guerre elle était arrivée en France, elle avait décidé qu'il était trop tard pour qu'elle se mette à apprendre une nouvelle langue. Et c'est toujours en yiddish qu'elle s'adressait à nous. Ce qui fait qu'Alex et moi comprenions le yiddish sans le parler, et que pour Boubé c'était exactement l'inverse. Comme nous lui répondions en français, elle avait fini par le comprendre sans savoir le parler. Pour lire, c'était pareil. Elle ne comprenait ce qu'elle lisait dans le journal qu'à la condition de le lire à haute voix. C'est pourquoi, alors qu'un jour elle avait, à la demande de ma mère, emmené Alex au cinéma pour voir un western, et étant tombée sur un film en version originale, elle n'avait pu s'empêcher, comme pour le journal, de lire les sous-titres à voix haute. Aussi, les spectateurs avaient eu le curieux privilège d'entendre toutes les répliques de John Wayne avec l'accent yiddish. C'est dire dans quel état de fureur et de honte Alex était revenu à la maison en jurant que c'était bien la dernière fois qu'il mettait les pieds dans un cinéma en compagnie de Boubé. C'est sous l'occupation allemande qu'il fut décidé qu'elle serait muette. Comme les mots qui sortaient de sa bouche portaient tous une étoile jaune, elle fut contrainte au mutisme, défranchit le seuil de la maison. Ce qui n'était pas sans poser des problèmes, comme on me l'a raconté plus tard. Elle m'emmenait souvent au parc Montsouris, qui n'était pas loin de Gentilly, où nous étions cachés, et comme il lui était interdit de m'appeler, elle se trouvait dans l'obligation de me courir après dès que je m'éloignais un peu trop. Il n'existe pas de statistiques officielles permettant d'évaluer l'augmentation soudaine de muets parmi la population des immigrants généralement juifs fraîchement débarqués d'Europe de l'Est, et qui, dès la libération, auraient, pour les survivants, miraculeusement retrouvé l'usage de la parole. C'est dommage, car j'ai appris bien plus tard qu'ils furent nombreux à utiliser cette infirmité. Ma mère m'a raconté que, m'obstinant à appeler ma grand-mère Boubé, j'avais à peine plus de 2 ans, elle fut vite repérée par une autre grand-mère usant du même simulacre. Se contentant au début de se saluer par un léger mouvement de tête, elles inventèrent bientôt toute une série de gestes leur permettant d'alimenter leur conversation. Et je me suis souvent demandé depuis si le hasard avait voulu que leur chemin croise celui d'un véritable sourd-muet, ce qu'il aurait compris de cette nouvelle gestuelle. Et c'est parce qu'elle pensait avoir joué le rôle de muette à la perfection que, concernant le projet artistique d'Alex, ma grand-mère émettait les plus grandes réserves. L'autre raison, celle qui rendait difficiles les relations entre Boubé et Alex et qui chagrinait tant maman, était plus douloureuse. Pour Boubé, j'avais nécessairement toutes les qualités puisqu'elle considérait que c'était elle qui, dès mon plus jeune âge, avait pris en charge mon éducation. Aussi, malgré l'absence d'un père à la maison, elle trouvait que nous étions bien tous les trois, elle, ma mère et moi, dans notre logement de la cité Crussol. Le vrai problème pour Boubé fut la réapparition de Leiser. Leiser, qui pour elle restait celui qui, devant tous les invités, avait sali le mariage de sa fille et qui maintenant prenait la place laissée vide, était l'intrus, l'usurpateur, celui qui allait prendre le pouvoir. Mais Leiser n'était rien de tout ça. Resté seul après la guerre, il avait seulement, en plus de la femme qui n'avait jamais cessé d'aimer, trouvé une famille et il en remerciait le ciel. C'est surtout la naissance annoncée d'Alex que Boubé ressentit comme l'imminence d'une menace. Déjà lorsque Leiser était venu habiter la maison, le lit cage dans lequel je dormais, que l'on dépliait le soir et repliait le matin, avait été déplacé dans la petite pièce qui servait de chambre à ma grand-mère, ce qui l'obligeait, sans qu'il s'en plaigne, à se déshabiller dans le noir. Ma mère savait bien ce que cette naissance impliquait et c'était pour elle une préoccupation de plus en plus absorbante. Notre logement devenant vraiment trop petit, il fallait absolument trouver une chambre pas loin pour que Boubé aille y dormir. Et ce qui n'était encore pour elle que la fin d'une tranquillité se transforma en véritable angoisse. Alors la discussion qui suivit le projet du déménagement et que ma mère redoutait tant finit par éclater. C'est pour me mettre à la porte de chez toi que tu m'as fait venir de Pologne? J'ai tout quitté pour toi, mes amis, ma maison, la tombe de ton pauvre père. Si j'étais resté là-bas, au moins j'aurais pu aller sur sa tombe, lui parler. Qui est-ce qui va sur sa tombe maintenant pour lui parler? Les Polonais? Même de son vivant, il ne lui parlait pas. Mais maman, qu'est-ce que tu me parles de la Pologne? Il n'y a plus de juifs en Pologne. Tu crois qu'il reste encore là-bas des juifs pour se souvenir de croix? De toi? Tu crois qu'à Prytik, il reste une seule juive pour demander à une autre « Avez-vous des nouvelles de Madame Horowitz? Ils sont tous morts dans les camps, les juifs. Ils sont tous partis en fumée, même les tombes des cimetières juifs ont été saccagées. » Et parce que la France, c'est mieux? Yankel a voulu voir la France. Et qu'est-ce qu'il a vu de la France? Il n'a rien eu le temps de voir, juste le temps de faire un enfant, que Dieu le bénisse. Et juste après lui aussi, il est parti en fumée. Il s'est fait appeler Jacques, et à quoi ça lui a servi? C'était la peine de tout quitter pour aller dans un pays où on ne connaît personne? C'est vrai qu'Yankel n'est plus là, mais aussi au moins tu es vivant, tu as une fille, tu as un petit-fils et bientôt un autre encore. Et puis personne ne te met à la porte, ce sera toujours comme maintenant, tu seras toujours à table avec nous midi et soir. C'est juste pour dormir la nuit. Et puis comme ça tu seras plus tranquille, j'ai déjà demandé à la gardienne de trouver quelque chose à côté, comme ça même Bernard pourra venir te voir sans sortir de la cité. Parce que ça y est, tout est déjà organisé, l'enfant n'est pas encore là et déjà je dois partir. Un extrait de On ne peut plus dormir tranquille quand on a une fois ouvert les yeux de Robert Bobert.